entre les bushmen au Kasai oriental. J'ai repris totalement ce qui
est. Moi, j'ai essayé de vous combattre au Kasanga. Je rencontre en combinant les deux, de effectivement trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Parole aux auditeurs. Ce lundi, votre émission 100% interactive sur Radio Capi s'intéresse au secteur minier en RDC. Le Premier ministre a invité jeudi dernier les opérateurs miniers à déclarer leur vrai état de fiscalité en vue de permettre à l'État de disposer des moyens de sa politique économique. Selon une enquête menée par le Sénat rendue publique en juin dernier, l'État congolais enregistre un manque à gagner des centaines de millions de dollars chaque année, voire même des milliards de dollars, à cause d'un désordre qui règne dans ce secteur. Environ 80% des exploitations non contrôlées échappent au contrôle de l'État. Pourtant, les impôts, taxes et redevances minières couvrent plus de la moitié des ressources propres du budget de l'État. Selon vous, quelles sont les meilleures mesures à prendre pour que ces entreprises payent convenablement leur fiscalité? Dans vos milieux, les entreprises minières, forestières et pétrolières implantées en RDC respectent-elles leur cahier de charges respectif vis-à-vis des populations? Pour en parler, nous avons invité M. Simo Tumawaku, il est vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo en charge des mines et président du conseil d'administration de Kamoto Copper Company. Aussi, il est un ancien ministre. Vous êtes en RDC ou à travers le monde, vos avis, vos propositions et questions sont attendues au cours de cette émission.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Monsieur Simo Tumawaku.
Bonjour Madame.
Oui, vous êtes vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo en charge des mines et président du conseil d'administration de Kamoto Copper Company. Aussi, vous êtes un ancien ministre des mines et hydrocarbures. Aujourd'hui, en fait, nous parlons de ce secteur assez sensible qu'est les mines. Au cours de la rencontre du jeudi entre le Premier ministre et les opérateurs miniers, il était question de la fiscalité et le rapatriement des fonds dus au trésor public. Alors, son auditoire a dit aux opérateurs du secteur que le temps est venu de s'acquitter de toutes les obligations vis-à-vis de l'État, faute de se voir infliger des amendes et pénalités prévues par la loi. Concernant aussi le rapatriement des fonds dus au trésor, le Premier ministre a insisté auprès des opérateurs économiques pour que les fonds dus au trésor soient versés à temps. Et on voudrait un peu savoir, est-ce que les opérateurs économiques n'arrivent pas à déclarer leur vraie fiscalité? Est-ce que c'est vraiment un problème?
Non, madame. Effectivement, lors de la réunion avec le Premier ministre, le Premier ministre voulait savoir pourquoi les sociétés minières ne payaient pas leur pas de porte, conformément à la réglementation des contrats miniers. Mais il s'est avéré au cours des échanges que 80% des entreprises minières n'ont pas encore payé leur pas de porte parce qu'il y avait certaines conditions qui n'étaient pas remplies du côté de l'État ou des partenaires étatiques. Donc, c'est pour ça que nous avons souligné, au Premier ministre en disant que de la plupart des entreprises minières ou des partenaires privés sont prêts à payer leur pas de porte. Mais un contrat, c'est un contrat, devant signer un contrat en disant, en nous mettant d'accord sur les modalités de paiement. Et donc, nous attendons à ce que du côté des partenaires de l'État, qu'ils puissent aussi remplir leurs conditions pour que les déclenchements de paiement des fonds se fassent.
Oui, mais quand même, quand ce rapport sénatorial, qui a couvert presque toute la RDC, quand on dit qu'environ 80% des exportations ne sont pas contrôlées par l'État, c'est quand même des grandes sommes.
Quand on repose des exploitations, ça on parle certainement de petites sociétés. La plupart des sociétés, d'abord, je vous rappelle, ne sont pas membres de la FEC. Si je dois parler au nom des opérateurs miniers membres de la FEC, qui sont dans la plupart des cas des sociétés respectables, dans le de par les règles qui régissent la FEC, l'exportation faite par les membres de la FEC, je le souligne, sont bien contrôlées. Et donc, ce qui n'est pas contrôlé, certainement, une grande partie se trouve au niveau de l'Est du pays.
Merci beaucoup, Monsieur Simon Toumawaku. Vous restez en ligne. Nous allons prendre notre invité aussi. Il s'agit de Théodore Mpiana. Bonjour, Théodore Mpiana.
Oh, bonjour, madame.
Vous êtes un expert dans le secteur minier et membre de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. Est-ce que, selon vous, cette rencontre du Premier ministre avec les opérateurs miniers, est-ce qu'il y aurait des mesures à prendre pour que ces entreprises payent vraiment convenablement leur fiscalité?
Oui, merci, madame, pour la question. Mais je voudrais apporter une explication. Je ne suis plus membre, mais j'ai eu à travailler dans cette institution, disons depuis 2005, et alors on connaissait un peu le contour et puis en tant que mandataire en ligne et carrière.
Oui.
Ouais, je crois qu'il y a un problème qui se pose, un problème sérieux de manque de transparence, disons, au niveau de l'industrie extractive, notamment les entreprises minières et les entreprises pétrolières. Et il y a des instruments juridiques qui sont mis en place pour pouvoir contraindre quand même ces sociétés de déclarer ce qu'elles payent au niveau du territoire public et aussi pour que le gouvernement déclare ce qu'il a reçu dans des sociétés. Puisque vous parlez des sociétés, bon, il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place, mais malheureusement, c'est au niveau de la praticabilité où le problème se pose. Mais prenons l'exemple de l'initiative. L'initiative, c'est depuis 2005 que la République démocratique du Congo a adhéré à cette structure. Mais nous constatons que ça marche vraiment difficilement. Ça marche difficilement. Là, nous constatons qu'il y a le gouvernement qui met de l'argent pour le fonctionnement de cette structure. Mais pour le DTC, ça pose un problème, madame. Et pourtant, il fallait normalement faire pour ça bousculer, essayer de mettre des moyens en place, essayer de chercher à ce que ces moyens qui sont mis en place par le gouvernement, parce que vraiment, vous savez que dans l'UTIE, il y a le problème, il y a la contrepartie qui vient au budget, et il y a les partenaires au développement. Mais sur la contrepartie du gouvernement, pour décaisser, ça pose des problèmes. Je pense que le gouvernement doit commencer par là, notamment le premier ministre qui se plaint aujourd'hui, à ce que les sociétés ne payent pas, de mettre les moyens en place. D'abord, du côté du gouvernement, au lieu d'attendre vraiment les partenaires au développement, pour que ces sociétés puissent acquitter de leurs devoirs. Et qu'il y ait un peu de la transparence, qu'il y ait aussi la bonne gouvernance au bout du jour.
Merci beaucoup, Théodore. Hein. Merci beaucoup. Nous allons prendre d'autres auditeurs qui nous ont appelés. Il y a par exemple Wabello qui nous appelle à partir de Matadi. Mais entre-temps, nous allons d'abord suivre ceci.
Parole aux auditeurs.
Nous étions en ligne avec Théodore Mpiana, qui est expert dans le secteur minier, mais nous allons prendre d'abord un auditeur qui nous appelle de Matadi. Bonjour Wabello.
Bonjour Madame Marie Chantal.
Oui, Wabello, on voudrait savoir, de votre côté, il y a plusieurs entreprises, par exemple forestières, même pétrolières, qui sont du côté de Matadi. Est-ce que vous pouvez d'abord vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'on a un bruit?
Oui, mais merci madame pour la question.
Oui, en fait, on voudrait savoir du côté de Matadi comment ça se passe par rapport au volet social des entreprises qui sont implantées à Matadi.
Moi, je voulais plutôt sortir de la base, c'est-à-dire des petites entreprises, d'abord pour voir ce qui se passe, voir vous et moi ce qui se passe effectivement à travers le pays. Nous sommes en train de parler du secteur minier. Mais non, d'abord, les secteurs, par exemple, de la douane, c'est un exemple que je voulais prendre avant de
les montrer. En tout cas, la qualité de son n'est pas vraiment bonne, hein. Peut-être qu'on va essayer de vous recontacter peut-être plus tard.
Je suis bien, madame.
Parce qu'il y a un bruit de fond qui ne permet pas de vous suivre correctement. On va vous rappeler, hein.
Allô?
C'est bon?
Oui, c'est bon.
Les techniciens me disent que maintenant la tête s'est améliorée. En fait, Wabello, on est en train d'échanger par rapport. Quel est votre avis par rapport à ce thème d'aujourd'hui?
je disais que si moi je voulais aller du plus bas niveau pour monter, pour aller au niveau de mines par exemple. Je voulais commencer par les petites entreprises. C'est-à-dire que pour les petites entreprises par exemple, avec la taxe communément appelée IBP, c'est-à-dire impôt sur le bénéfice et profit, hein, qui arrive dans cette taxe, cet impôt que peut faire la DGI, bon, on vient, les taxateurs viennent auprès de d'assujettis, c'est-à-dire auprès des commerçants, ils viennent pour que cela puisse déclarer effectivement leurs bénéfices annuels. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent, écoutez, pour ne pas trop payer votre petit bénéfice, pour que moi je puisse aussi en bénéficier. Donc voilà à peu près que les eux-mêmes qui viennent.
Donc
pour,
il y a corruption.
C'est-à-dire que au niveau national, par exemple, pour ceux qui les mettent, à qui il faudra déclarer, auprès de qui il faudra déclarer, parce que c'est un problème de personne aussi. Vous allez déclarer un chiffre qui n'est pas exact, vous allez déclarer un chiffre ou alors qui n'est pas normal, et cela va de soi, va directement empiéter pour le bon pour
oui.
L'investissement ou le détachement d'une bonne fortune pour l'État congolais.
Oui.
Et il n'y a pas que là.
Oui.
Il y a par exemple dans la douane. Les douaniers utilisent la sous-évaluation, les non déclarés et la fausse dénomination par exemple. Et c'est toujours toutes ces manœuvres-là. C'est pour donner un exemple par rapport à ce qui peut se passer au niveau des mines. C'est-à-dire, ceux qui exploitent les mines ici en RDC s'arrangent avec le ministre. Avec tous ceux qui ont la capacité de réagir, ils s'arrangent avec eux pour diminuer le coût, pour diminuer la quantité exploitée effective,
oui.
Pour que finalement ça rentre dans leur poche,
oui.
Ou que cela entre dans les caisses de
l'État. Oui, mais on voudrait savoir quand même, il y a des entreprises qui sont implantées à Matadi sur le plan social, le volet social. Est-ce qu'il y a ces entreprises, est-ce qu'elles respectent en fait le contrat social qui lie ces entreprises à la population?
Mais non, mais ça n'existe pas. Par exemple, bon, je veux bien citer, par exemple, la compagnie sucrière qui avait un taux élevé, c'est quoi, une quantité élevée par rapport à leur production, la production qu'ils avaient estimée à 70 000 tonnes. Ils ont fait 82 000 tonnes. Bon, d'habitude, ils doivent se partager les bénéfices, mais ça n'a pas été, ça a provoqué un remous au sein de la compagnie sucrière. Et dans la même société, par exemple, il y a un administrateur de l'État qui a été placé depuis la période de Mobutu, et qui devait, si vous voyez, qui devait contrôler, qui devait dire la vérité de la production de ce qui se passe là-bas pour les contrats, pour que les contrats soient bien entre la population,
merci.
Les travailleurs et tout le monde.
Oui, merci beaucoup.
Il y a toujours tricherie parce que qu'est-ce qui se passe?
Oui, Wabelo. Oui, Wabelo. En tout cas, merci beaucoup par rapport à toutes ces informations que vous nous avez données concernant le secteur minier, aussi les entreprises extractives qui existent au niveau de Matadi. Nous revenons à Théodore Piana. Théodore Piana, vous avez suivi Wabelo et tous les problèmes qui se pose au niveau de la déclaration de la fiscalité. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Disons qu'il y a à manger et à boire dans ce que je veux dire. C'est que quand nous parlons de la fiscalité, il y a, donc elle est instituée, la fiscalité plus précisément de la fiscalité minière. Donc il y a des parties de l'œil qui peuvent être appelées, qui sont comptables à toutes, c'est-à-dire à toutes les sociétés qui exploitent. Ces sociétés-là vont respecter, disons scrupuleusement, l'application de toutes ces dispositions. Puisque nous sommes dans le secteur, nous avons d'abord le code minier qui est effectivement de base.
En tout cas, Monsieur Théodore Piana, encore une fois, la qualité de son n'est pas assez bonne. Nous allons vous rappeler peut-être plus tard. On va demander à la technique de pouvoir vous rappeler. Là, peut-être qu'on aura une meilleure qualité. Nous revenons à notre invité, Monsieur Simon Tumawaku. Monsieur Simon Tumawaku, vous avez suivi un auditeur de Matadi qui déclare en fait que ce sont plutôt des opérateurs économiques qui s'arrangent avec certaines autorités de la place pour pouvoir ne pas déclarer la vraie fiscalité.
Oui, madame, j'ai réagi à cela. Il y a quand même un système qui est là, qui est établi. L'exportation des produits miniers ne se fait pas nécessaire en cachette, ça suit une certaine route, et notamment quand tu prends l'exemple du couvre-cobalt, avant de faire sortir des produits, il y a des papiers à remplir, notamment des déclarations qu'on doit remplir à la banque, à la division des mines, et etc. Donc, qu'il y ait collaboration entre les exploitateurs et les ministres des mines, ça c'est complètement faux. Les déclarations d'exploitation sont faites et c'est à l'administration des impôts de pouvoir contrôler pour vérifier ce qui a été produit et réellement ce qui a été exporté. Et c'est là, je crois, d'ailleurs, M. Pianer l'avait abordé, la RDC veut entrer à l'ITIE. Nous espérons tous que nous serons partie de l'ITIE mars 2010. Et les entreprises minières aujourd'hui poussent et font tout pour que nous puissions entrer là-dedans, parce que la transparence, cela nous concerne aussi, et nous voulons montrer que nous déclarons et nous payons ce que nous devons payer. Et c'est maintenant on doit faire la traçabilité dans tout ça. Et il y a une part de l'État aussi, une part des organismes chargés du contrôle pour vérifier effectivement que ce que le secteur minier paye est exact par rapport à leur production et l'utilisation de ce qu'ils payent aussi au niveau de l'État.
Oui. Merci, M. Tumawaku. On prend notre auditeur qui nous appelle du Sud Kivu. Bonjour Teddy.
Bonjour.
Teddy, vous appelez de Baraka. Dites-nous, on vous écoute par rapport à ce sujet sur les mines.
Ah oui, en tout cas, d'abord en premier lieu, je remercie tous les auditeurs de Radio Capi ainsi que la Radio Capi pour cet intéressement qu'ils ont pu attacher à moi. Normalement, quand on essaie de pouvoir essayer de pouvoir lire ce qui se fait dans notre pays, des fois, on doit se poser un peu des questions.
Oui.
Parce que quand on regarde toute situation, c'est comme si, même dans les histoires là, minières, les autorités qui s'y impliquent là-dessus, quand les sociétés viennent s'implanter, il y a les 10% qu'on doit chaque fois retirer, et cela ne permet pas de pouvoir gagner des histoires qui pourront permettre au pays de pouvoir s'y développer en cela. Alors, c'est là vraiment, ça nous inquiète un peu en regardant ces histoires-là, et ça nous demande de pouvoir dire bon, quel genre d'autorité qu'on en a.
Oui, et dites-nous un peu, Teddy, quelles sont les mesures que vous proposez en vue pour permettre en fait à ces entreprises à pouvoir vraiment déclarer leur vraie fiscalité et de payer correctement?
Oui, l'État congolais, en premier lieu, doit s'impliquer correctement et qu'on puisse payer ce qui doit revenir à l'État congolais, et non que les individus puissent s'emparer comme si cela était leur bien commun ou quoi que ce soit.
Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement?
Que l'État, sous son rôle d'être l'État pourvoyeur, l'État gendarme et l'État pourvoyeur, qui se pouvoir pour 10 ans, qu'est-ce qui pourra arriver dans notre pays?
Merci beaucoup, Teddy, pour votre proposition par rapport à la déclaration de la vraie fiscalité. Nous prenons Arsène, il nous appelle de Kikwit. Bonjour, Arsène.
Bonjour, madame.
Oui, Arsène, on vous écoute. Surtout à Kikwit, il y a des entreprises d'exploitation de bois, si j'ai bonne mémoire.
Ok, ici à Kikwit, pas seulement, mais c'est un peu plus au nord de la province où on exploite le bois.
Oui.
Moi, mon intervention va se baser plus sur le contrôle de tout ce que nous faisons. Vraiment, madame, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Moi, je vois un peu plus loin. L'histoire des entreprises qui viennent investir ici chez nous est en quelque sorte un peu déroutée à partir de nos autorités. On dit l'État. Mais l'État est un des représentants. Les représentants de l'État, ce sont les autorités que nous avons élues qui sont là. Mais ils ont créé tout un système, comme je le disais la fois passée, un système mafieux. Certainement, il y a aussi des gens honnêtes là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? On annonce autre chose, sur le terrain on fait autre chose. Par exemple, une entreprise qui vient pour l'exploitation du bois ici chez nous, au Bandundu. On lui dit d'écouter, à part tout ce que vous devez à l'État, il faut la part sociale vis-à-vis de la population. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la population? Qu'est-ce qu'ils vont donner à la population? Ce qu'ils vont donner à la population, c'est juste un petit hangar quelque part là-bas pour dire qu'on a construit une école ou bien on a construit un dispensaire. Malheureusement, nos pauvres populations qui sont embroussées, un petit peu décalées de la technologie et de l'évolution du monde, nous verrons que ce petit bâtiment-là, c'est juste ce qu'on appelle une école. Mais ce n'est pas ça une école. Une école doit avoir tout ce qu'il faut comme matériel didactique et de gens capables qui peuvent former. Mais moi, ce que je déplore, ce sont nos autorités. Soyons un peu clairs dans la gestion de notre pays. C'est notre patrimoine à tous. Aujourd'hui, si ces autorités-là sont en train de détruire ce pays, ce sont leurs enfants. Ils reviendront, ils verront toujours un pays en moule. Prenons un peu les choses en main, comme je le dis toujours, essayons de remettre tout en ordre, ça, on est entre nous-mêmes. Ne mentons pas. On essaie d'utiliser toutes les théories qu'il faut, tout ce qu'on a appris à l'université, à la radio, pour dire, écoutez, voilà quelle théorie, c'est ça, mais sur le terrain, il n'y a rien, papa.
Maman. Oui, on vous écoute votre question, soyez bref parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Oui, ok, ma question est celle-ci. Faut-il attendre le retour de Jésus-Christ pour que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes?
Merci beaucoup, Arsène. Ça dépend de la foi de chacun d'entre nous, catholiques, musulmans, donc chacun d'entre nous a sa foi. Merci beaucoup pour d'avoir participé à cette émission. Nous avons Kiki qui nous appelle de Bounia. Bonjour, Kiki.
Bonjour, madame Marie-Chantal.
Oui, Kiki, on vous écoute.
Oui, moi, je dirais que ce que le Premier ministre est en train de faire, c'est un travail vain.
Pourquoi?
Parce que nous nous souvenons bien, il y a de cela plusieurs années, lors de la guerre de l'Astel, il y a certaines compagnies minières qui ont financé cette guerre. Par exemple, ici, chez nous, à Bounia, ici, il y a l'entreprise Ashanti Gold Mining qui s'est véritablement impliquée dans le financement de la guerre de l'Astel.
Mais ça, c'est vous qui l'avez dit, hein?
Oui, lorsque cette entreprise n'était pas remise dans ses droits, elle est revenue encore soutenir les RCD et consorts. Bon, vous pensez que les entreprises telles qu'Ashanti Gold Mining ou Anvil Mining au Katanga peuvent payer vraiment leur fiscalité vis-à-vis de l'État congolais? C'est l'État congolais qui leur doit beaucoup.
Et
en plus...
Oui, on vous écoute.
Okay. Et en plus, la gestion du dossier... Le séminaire dans notre pays est vraiment mafieuse. Nous voyons beaucoup d'autorités s'impliquer dans cette histoire. Ce ne sont pas les entreprises qui s'arrangent avec les autorités, ce sont les autorités qui influencent les entreprises à payer moins pour que la différence leur revienne. C'est ce qu'on constate sur le terrain.
En tout cas, merci beaucoup Kiki pour votre rapport et votre avis par rapport à ce dossier sur les mines qui est un dossier assez sensible.
Taux d'échange, inflation, prix, matières premières, business, nous parlons économie en un quart d'heure sur Radio Capi. Tous les soirs, de lundi à vendredi, à partir de 18h15, retrouvez Jocelyne Moussa Okonde et toute l'équipe de Écho d'économie. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Pour ceux qui viennent de nous prendre peut-être en cours, c'est l'émission Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, votre mission 100% interactive s'intéresse au secteur minier en RDC. Le Premier ministre a invité jeudi dernier les opérateurs miniers à déclarer leur vrai état de fiscalité en vue de permettre à l'État de disposer des moyens de sa politique économique. Selon une enquête menée par le Sénat rendue publique en juin dernier, l'État congolais enregistre un manque à gagner des centaines de millions de dollars chaque année, voire même des milliards de dollars à cause d'un désordre qui règne dans ce secteur. Environ 80% des exportations non contrôlées échappent au contrôle de l'État. Pourtant, les impôts, taxes et redevances minières couvrent plus de la moitié des ressources propres de l'État, du budget de l'État. Selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour que ces entreprises payent convenablement leur fiscalité? Dans vos milieux, les entreprises minières, forestières et pétrolières implantées en RDC respectent-elles leur cahier de charges respectives vis-à-vis de la population? Pour participer, vous pouvez nous appeler au 081 99 77 800 et nous vous rappellerons. Vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Radio Okapi s'écrit en un mot avec deux lettres O. Et pour en parler, nous avons invité M. Simon Toumawa. Il est vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, FECONCIG. Il est en charge des mines. Il est aussi président du conseil d'administration de Kamoto Copper Company et ancien ministre des mines. M. Simon Toumawa, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez leur répondre?
Oui, effectivement, je vais réagir au dernier intervenant, parce qu'on croit que c'est facile de tricher, il suffit de s'associer avec quelqu'un pour pouvoir détourner des milliards de dollars. Donc, je dis que, par ce qui concerne nos membres au niveau de la FEC, et qui veulent suivre, qui suivent d'ailleurs la voie officielle de l'exportation, il est très difficile de sortir de là, de pouvoir détourner des produits. Nos membres font partie de l'ITI, donc de l'initiative de transparence, où d'ailleurs je représente aussi les sociétés minières comme membre du comité exécutif. Nous faisons tout cela parce que justement on prête on garde un flou artistique sur le secteur minier. Voilà, on dit voilà, beaucoup de choses qui se passent, il y a des milliards de dollars qui sont détournés, la réalité est autre. Déjà d'abord se demander aussi il y a combien d'entreprises minières qui sont en production en République démocratique du Congo. Parce qu'on a toujours tendance à croire qu'on produit des millions de tonnes et où va l'argent. Il y a très peu de sociétés qui sont en production aujourd'hui. À l'heure actuelle, si je rassemble toutes les productions des différentes sociétés, voilà. Quatre entreprises qui sont au Katanga qui produisent, nous sommes à 120 000 tonnes de cuivre seulement. D'ici 3 à 5 ans, nous serons à 700 ou 800 000 tonnes. À ce moment-là, on pourra réellement voir le poids des entreprises minières sur le budget de l'État. Donc, je dis, il y a un peu. Effectivement, il y a beaucoup de fraudes, mais là, cette fraude, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout au niveau de l'Est, où là, 80% des activités minières sont artisanales et donc non contrôlées. Ce qui est différent du Katanga où 80% des activités justement passent par la voie officielle et 20% peut-être artisanales qui échappent au contrôle de l'État et qui sont donc sujets à la fraude.
Oui. Vous êtes en fait aussi président du conseil d'administration de Kamoto Copper Company. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe concernant le contrat social qui lie souvent les entreprises avec la population?
Oui, effectivement, je vous inviterai, madame, à faire un tour à Colésie. Je me rappelle qu'en 2005, quand le projet a commencé à Colésie, Colésie était une ville fantôme. Les activités de la Gécamine étaient à l'arrêt et il ne se faisait plus rien quand Katanga Mining a démarré ses activités à Colésie. Aujourd'hui, Katanga Mining a participé à la réhabilitation de l'hôpital de référence, Mangéji. Nous avons participé à la réhabilitation des écoles, à la construction de certaines écoles. Et nous sommes en train de réhabiliter les routes de Colésie qui sont dans un état déplorable. Nous avions mis, et ça c'était en 2007-2008, près de 5 millions de dollars américains pour pouvoir réhabiliter la route entre Ngouba et Colésie pour que cela soit praticable. Voilà, ça c'est les réalités que le secteur minière a.
Mais monsieur Toumawa, est-ce qu'il y a une obligation aux entreprises de pouvoir mener des actions sociales? Par exemple, si une entreprise doit s'installer et délocaliser des populations, comment ça se passe? Parce que, en fait, vous avez été aussi ministre des Mines à l'époque où on était en train d'élaborer le code minier. Que dit le code minier par rapport à cela?
Ah oui, non, là, délocaliser une population, on doit suivre une procédure qui est assez lente. On ne peut pas déplacer les populations qui pourraient déplacer parce qu'on a, on a trouvé une mine d'or, de cuivre ou de cobalt. Il y a des captations qui se font avec la population concernée et le gouvernement intervient aussi. Donc, c'est une opération qui doit aboutir à un consensus entre toutes les parties concernées. Donc, ce n'est pas l'entreprise minière qui prend une décision unilatérale pour pouvoir déplacer toute une population.
Oui. Merci beaucoup. Vous restez en ligne, hein, monsieur Tumawaku. Nous prenons un auditeur qui nous appelle du Katanga Moba. Bonjour, Dani.
Oui, bonjour, madame.
Oui, Dani, on vous écoute.
Ok, merci. Bon, ce que moi je me pose en tout cas, pourquoi les Congolais sont des négativistes toujours?
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, pardon?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, négativiste?
Ah bon, en tout cas, il y a beaucoup de corruption à tous les niveaux, en commençant par les autorités, par les tablateurs, donc partout, en tout cas, il y a des négativistes. Bon, est-ce qu'il n'y a plus moyen de remettre le pays à la Belgique pour nous coloniser encore? C'est ça, c'est moi, je
veux. C'est votre avis, hein, c'est votre avis.
Oui,
pensée que
oui,
le pays devait être mis sous tutelle. Hein. Merci beaucoup, Dani, pour votre participation à cette émission.
Merci.
Il y a James qui nous appelle de Bounia. Bonjour, James.
Bonjour, madame.
Oui, James, dans la province orientale, il y a aussi plusieurs entreprises minières dans la province orientale. Dites-moi un peu comment ça se passe chez vous.
Ok, moi... En tout cas, ce que moi, je ne comprends pas pourquoi le ministre a attendu pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, il se réveille pour demander à toutes les entreprises qu'ils puissent donner leur... Donc, je viens pour soumettre leur contribution à l'État. Bon, je vois qu'il y a les gens qui cherchent à s'enrichir plus que l'État. Puisque ce n'est pas quand même compréhensible qu'à ces jours, les entreprises ne puissent pas déclarer leur...
Allô?
Allez,
oui, vous dites?
J'ai dit, mais si, je ne comprends pas comment se pourrait-il que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises ne puissent pas déclarer leur devoir envers les gens.
Oui, et qu'est-ce que vous proposez? Et qu'est-ce que vous proposez pour que cela, pour que les entreprises puissent payer convenablement leur fiscalité?
Bon, moi, je propose qu'il faut qu'il y ait vraiment des commissions indépendantes ici, là où ce ne sont pas les membres du gouvernement qui sont associés, ou que, par exemple, les ONG peuvent travailler d'une façon indépendante.
Merci beaucoup, James. Hein, pour vous, vous êtes étonné que jusqu'à présent, il y a certaines entreprises ou des opérateurs miniers qui n'aient pas pu qui n'ont pas pu déclarer et qui ne donnent pas leur vraie fiscalité. Merci beaucoup d'avoir appelé James. Hein, vous avez appelé de Bounia, dans la province orientale. Nous revenons à notre invité, Monsieur Simon Tumawaku. Encore une fois, on fait allusion à la corruption. Quels sont les mécanismes, en fait, pour qu'on puisse voir, constater que ce secteur est clean, que ce soit transparent? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe?
Oui, merci madame pour la question. Moi, je voulais un peu vous répondre par une autre question. Quand vous parlez de le système de clean, c'est quel système? Parce que la corruption, ça se trouve à quel niveau? Et puis, évidemment, quand on parle de corruption, il y a le corrompu et le corrupteur. Donc, c'est un sujet effectivement très important. Le président de la République a déclaré la tolérance zéro. Nous devons nous mettre tous ensemble pour pouvoir nettoyer le système qui est là depuis des années et qui est rentré dans notre système, dans nos veines.
Mm-hmm.
Nous devons faire tout nécessaire pour que la corruption soit diminuée au maximum dans notre pays parce que c'est arrivé à un niveau intolérable. Et ça, c'est essentiellement dans l'administration c'est là lié aussi au niveau de salaires minables que nos employés dans l'administration touchent. Mais ce qui n'est pas excusable, je le conçois, mais aussi ça remonte aussi à un autre niveau. Donc c'est devenu une habitude, c'est devenu comme si c'était quelque chose de normal, et donc c'est un changement complet de mentalité.
Oui. En fait, aussi dans l'enquête sénatoriale sur les mines, on révèle en fait qu'il y a plus des permis de recherche que des permis d'exploitation. Et est-ce que cela a un impact sur une incidence sur les taxes, impôts et redevances que doit percevoir l'État?
Oui, absolument, parce que quand on parle de permis de recherche, c'est que l'entreprise est au niveau de la recherche, ne paye quasiment pas d'impôts, vraiment emploie un petit nombre d'employés. Donc, c'est au niveau seulement d'impôts sur même pas les salaires de l'emploi, parce qu'il ne produit pas encore, donc ne paye quasiment pas d'impôts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a encore très peu d'entreprises qui produisent en République démocratique du Congo. Beaucoup sont en phase de développement et la plupart sont en phase de recherche. Donc, autant que les entreprises en phase de recherche et ceux qui sont en développement ne sont pas encore arrivés à une production totale, nous ne pouvons pas avoir des entrées significatives dans les caisses de l'État.
Mais aussi dans cette rencontre qu'il y a eu entre le Premier ministre avec les opérateurs miniers, il y a les opérateurs miniers qui se sont plaints d'être un peu asphyxiés par plusieurs taxes. Il y a par exemple plusieurs taxes, les impôts sur les véhicules, superficie, les impôts sur la superficie des concessions minières. Donc il y a autant d'impôts, il y en a à peu près une dizaine que les opérateurs miniers doivent payer. Est-ce que cela est propice pour une bonne évolution sur le terrain?
Oui, effectivement, nous avions souligné cette tracasserie lors de la rencontre que nous avons eue avec le Premier ministre. Et c'est pour ça que nous disons que la loi minière est claire, le code minier est là. Toutes les taxes que les entreprises minières doivent payer sont énumérées et clairement énumérées. Mais qu'est-ce que nous sommes rendus compte que au niveau de la province et surtout au niveau des frontières, il y a eu des taxes qui s'ajoutent. Et c'est ça qu'on a, le système minier est en train de tracasser parce que au lieu d'avoir 4 services de l'État par exemple français, on en a une dizaine. On en avait parlé et une entreprise qui avait souligné qu'au départ pour faire sortir les produits du Congo, il fallait une cinquantaine de signatures. Alors, nous nous sommes battus au niveau de la FEC pour déplorer cela. On a réduit, on est en train encore de réduire. Maintenant, c'est une vingtaine de signatures encore. C'est toujours beaucoup parce que normalement, en principe, avec 4-5 signatures maximum, on devait sortir les produits du pays. Et c'est là, justement, il y a beaucoup de tracasseries parce que les entreprises qui ont commencé à exporter avaient créé de l'emploi, donc mettaient à amener de l'argent. Et donc, ça devenait un peu la poule aux yeux d'or et tout le monde voulait en profiter.
Oui. Merci beaucoup, Monsieur Simon Toumawaku.
Parole aux auditeurs.
Nous avons l'auditeur Steve qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Steve.
Bonjour madame.
Oui, est-ce qu'on voudrait savoir sur le plan social avec les entreprises qui sont implantées à Mbandaka, comment est-ce que ça se passe?
Écoutez madame, c'est comme une fois j'avais suivi M. Alpi Tengue qui disait, quand il parlait de structure économique du pays, il dit la monnaie est le reflet de l'économie du pays. L'exécution des décisions du gouvernement par rapport, n'est-ce pas, à toutes les entreprises, elle le reflet même de la justice dans un pays. Écoutez, quand nous parlons, n'est-ce pas, de toutes ces sociétés, la situation, n'est-ce pas, des sociétés, la réponse des sociétés dans les différentes couches sociales, écoutez, madame, c'est à déplorer. Moi, je dirais, par rapport au débat d'aujourd'hui, la responsabilité du trésor minier de l'entreprise dans l'ensemble du territoire national est la responsabilité du gouvernement. Je prends un petit exemple, madame, s'il vous plaît. Pourquoi monsieur qui dit ça avec l'autre là, le monsieur de Katamala, n'est-ce pas, de la famille Katamala, pourquoi il a été arrêté? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu dénoncer, n'est-ce pas, ces désordres dont les autorités, parmi les autorités, les officiers du pays, sont en train de mettre dans ce secteur-là. Vous savez beaucoup de choses, je prends un exemple. les colonels Samy de l'Est du pays. Vous savez pourquoi il n'est pas arrêté? Vous savez pourquoi il n'est pas poursuivi? C'est parce qu'il a des complicités avec les officiers du pays au niveau national. Mais madame, écoutez, nous devons être sérieux. Les autorités ne doivent pas nous tromper à chaque instant. Nous les avions votés, ils nous doivent beaucoup de chances et beaucoup de ressources pour nous faire décoller. Donc nous déplorons cette situation. Les désordres là, c'est le gouvernement qui est à la base, c'est le gouvernement qui met tout en désordre.
Mais qu'est-ce que vous proposez? Quand même, c'est vrai que vous dénoncez, mais quelles sont les propositions que vous faites?
Ok, la proposition celle-ci, d'abord, est la justice. La justice doit être utilisée jusqu'au fond, d'aider, puisque nous sommes un pays qui exporte beaucoup de minerais. J'aimerais que la situation d'établir la paix, qui était celle de créer un marché minier au Congo, soit effective et que la justice soit faite. Jusqu'à ce que nous ayons notre poids, qui lève les blancs là, tous ceux qui font du désordre à travers le pays et dans la diaspora, pour martyriser notre pays, qui vient acheter des biens chez nous, comme ça nous aurons du poids. Et le secteur minier serait un secteur profitable pour toutes les couches sociales de la région du Congo.
Merci beaucoup, Steve, pour votre apport. Vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait une justice assez forte et aussi qu'il y ait un marché interne ici en RDC. Nous avons nos auditeurs qui nous ont écrit par Internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Bonjour, Titi.
Bonjour, Marie-Chantelle.
Quels sont nos internautes?
Il y a Jules Nyanga de Kananga qui dit que l'impôt est portable et non qu'érable. Les entreprises doivent déclarer et payer même les pénalités. Pour Gérard du Katanga, il dit l'État ne fait pas son travail. Avant que l'entreprise ne commence l'exploitation, il doit commencer par signer le contrat et promettre le respect. Franck Mayele de Baraka pense qu'on doit ressusciter Kabila le père. Il dit que le frais à payer n'entre jamais dans la caisse du trésor public, mais dans les postes des dirigeants, c'est ce qui décourage enfin Marie-Chantal. Patrick de Matadi lui dit que dans le territoire de Lukula, une des entreprises pétrolières, qui a cité le nom Soko, n'a construit qu'un aéroport et nous ne voyons que les avions. Dans eux, les habitants de Lukula ne voient que les avions atterrir et voler et ils ne savent pour quel but.
Merci beaucoup Titi, hein. Il y aura peut-être une autre série. Hein, et surtout, ne vous fatiguez pas et soyez toujours actifs comme d'habitude. Vous pouvez nous écrire, comme je vous l'ai dit, à l'adresse
pa@radiocapi.net.
Ou bien carrément, vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800. On va vous rappeler. Merci beaucoup Titi, on va vous attendre pour une nouvelle série d'auditeurs. Nous avons aussi Séraphin qui nous a appelé d'Ouvira au sud de Kivu. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour madame.
Oui Séraphin, on vous écoute.
Bon, moi je pense que ces entreprises sont des entreprises responsables. Elles sont implantées dans notre pays légalement. Il s'avérait vrai qu'elles ne s'acquittent pas de leur fiscalité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une part la faiblesse de notre gouvernement. Et si elle s'acquitte, donc il y a des frais que certains gouvernants censés aller couvrir détournent au lieu de canaliser ces frais dans les comptes du trésor public. Alors, parce que quand à la législation congolaise, madame, on distingue deux sortes de fiscalité. Il y a de la contribution directe et la contribution indirecte. Donc là, si on voit la contribution directe, on voit directement les droits spontanés. Tandis que la contribution directe, on voit directement les droits venus. Et dans les droits spontanés, on fait directement allusion aux hyper, donc on dit qu'on est pour des revenus professionnels. Donc hyper là, c'est hyper expatrié, il y a plusieurs hyper là. Alors, est-ce vrai que ces entreprises ne payent pas vraiment ces taxes ou ces impôts? Ils utilisent le travailleur ou les employés abusivement, donc ils ne payent pas les impôts. Donc je ne crois pas, je crois que ce sont des entreprises responsables. Elles doivent payer les impôts. Et si elles ne sont pas de que le gouvernement qui détourne ces impôts.
Et dites-nous un peu, qu'est-ce que vous proposez, hein? Vous avez fait plusieurs remarques, vous avez fait plusieurs analyses là-dessus, mais quelles sont les propositions que vous faites?
Donc, en fait, ce que moi je peux faire à nos gouvernements, c'est qu'il y a la bonne gouvernance. Que la tolérance zéro ne soit pas un slogan. Il faudrait qu'on puisse prendre compte de cette tolérance zéro. Parce que ceux-là qui disent tolérance zéro, peut-être que ce sont ceux-là qui aussi détournent. Il faudrait assez qu'on puisse gérer la chose publique d'une manière là légale.
Merci beaucoup, Séraphin, pour votre participation à cette émission. Nous avons Simo Tumawaku, qui est en fait notre invité de cette émission. Monsieur Tumawaku, vous avez suivi nos auditeurs et leurs craintes et ainsi que leurs souhaits. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose là-dessus?
Oui, je crois que le dernier intervenant a résumé un peu nos craintes. Au niveau des impôts, tout ce qui est hyper, comme on l'a dit, les entreprises ne peuvent pas y échapper puisque c'est au niveau des employés, ceux qui emploient et ceux qui déclarent comme employés et aussi des expatriés. Donc ça c'est payé automatiquement. Je crois que cela ne fait pas de problème. L'émission aujourd'hui regardait plutôt, s'est penchée plutôt sur les autres impôts et notamment tout ce qui est pas de faute dont on avait parlé avec le Premier ministre. Et comme je vous l'ai dit, madame, les entreprises minières, en principe, doivent respecter cela et vont le payer. Mais quand on a signé un contrat, il y a deux parties qui signent avec des conditions que les deux parties doivent remplir. Et dans ces cas bien précis, nous attendons que du côté des partenaires étatiques et qui représentent sur ce sujet le représentant du gouvernement puissent remplir la première condition pour que les entreprises puissent payer le pas de porte. C'est vrai que nous venons d'une crise financière et qu'il y a certaines entreprises qui sont qui sortent à peine de cette crise, mais ils veulent tous respecter les créanciers.
Oui, souvent, en fait, les populations, dès qu'elles voient une entreprise installée dans leur milieu, elles attendent toujours que ce contrat social soit respecté. Mais apparemment, dans la plupart des cas, la plupart des auditeurs que vous avez suivis disent qu'il n'y a pas un respect de ce contrat social-là.
Oui, c'est vrai, madame. Je veux dire que notre population aussi pauvre et attend beaucoup d'une société qui commence à peine à s'implanter. Vous savez, l'investissement, que ce soit minier ou que ce soit pétrolier, ça demande beaucoup d'argent. Et souvent, quand on est en phase de recherche, on n'a pas encore confirmé les réserves qui seront l'objet justement de la création de la société et de l'exploitation pendant des années et des années, on ne peut pas investir, on ne peut pas commencer à faire des investissements importants sur le plan social. Et c'est ça que les gens doivent savoir, c'est que si l'entreprise entre en phase de production, effectivement, elle s'installe, et c'est dans son intérêt d'ailleurs de pouvoir construire des écoles, non seulement pour les enfants de ces travailleurs, mais c'est aussi pour la population locale. L'entreprise a besoin du soutien de la population locale pour qu'elle puisse, en fait, la population locale va faire le marketing de l'entreprise.
Oui.
Donc, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de pouvoir contribuer du point de vue social à l'émancipation de la population locale là où elle travaille.
Oui, nous avons pu recontacter M. Théodore Mpiana, qui est expert dans le secteur de mines, aussi mandataire. Et dites-moi un peu, M. Théodore Mpiana, est-ce que vous pensez qu'il y a un déficit de communication entre ces entreprises minières et la population, parce que souvent les populations ne trouvent pas leur compte?
Déficit, oui. Puisqu'au niveau de la population locale, il faut dire la population est représentée par les organisations de la société civile qui œuvrent dans le cadre de ressources naturelles. Et cette population doit être informée. Mais là où je ne suis pas d'accord avec M. Thomas, qui m'a dit tout à l'heure, sur le fait que la société doit engager beaucoup d'argent, il faut attendre qu'elle atteigne la vitesse de croisière pour pouvoir se livrer aux actions sociales. J'ai donc tout expliqué. Vous devez trouver qu'il y a des champs sur un emploi et vous devez raser tout ce qu'il y a pour creuser. Vous allez demander à ce genre-là qui va être localisé de prendre ce que vous décidez avec des croisières. Je ne pense pas. Il y a le problème. Puisque quand nous parlons de la responsabilité sociale, il y a des normes. Je disais au début de cette émission qu'il y a l'OCDE au niveau international. Cassandra m'a dit que c'est une grande société qui est au niveau international, qui connaît très très bien les principes de l'OCDE. Et ce principe doit s'appliquer, appuyé par tout ce qui est prévu au niveau de l'administration sociale ici chez nous. Donc, il faut qu'il prendre ces organisations et tout ce qui est prévu dans les principes et tout ce qui est vu dans la. la législation locale. Et deuxième point, quelque part, toujours au cours de l'émission, il a dit qu'on essaie de publier un peu la pause au niveau du Katanga. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'il a lu intégralement le rapport du Sénat auquel vous avez fait la décision, madame, dans cette émission. Je peux vous, raconter la grâce de ce rapport. Dans ce rapport, on a constaté que le recensement des opérateurs miniers ne répond pas à la réalité. Il y a 560, je n'ai pas les rapports, mais j'ai peut-être le résumé que j'ai eu à faire. Il y a 506 opérateurs détenteurs de titres miniers, 135 qui sont au niveau des traitements et des transformations, 61 pour toi, et ce qui est grave, c'est qu'il y a 428 opérateurs non classés qui œuvrent dans la clandestinité. Vous vous rendez compte, madame, quelles services on peut avoir sur le plan fiscal? De deux, il y a les statistiques de production, d'exportation et de commercialisation qui ne concordent pas. On trouve quelque part qu'il y a l'administration des statistiques de production. Je vous donne un exemple qui est repris dans le rapport. Là où la société devait déclarer, par exemple, 30 tonnes. On sait que la fête 30 tonnes, mais lorsqu'on doit calculer les 1% de droits, je ne sais pas, d'un droit donné, on doit placer vraiment sur le plan fiscal. On met juste la virgule au niveau des 3 là, et ça devient 3,3 et on fait les calculs. Et ce sont des documents qui existent. Et ce que nous pouvons dire, qu'on peut voir, est-ce que c'est seulement le membre de régie financière ou c'est en complicité avec les agents des sociétés?
Oui, autant de questions qui restent en suspens, M. Théodore. Nous prenons d'abord un autre auditeur qui nous appelle à partir d'ici de Kinshasa. Bonjour Damas.
Oui, bonjour.
Oui, Damas, oui. On vous écoute.
Moi, c'est Damas, si j'appelle le Kinshasa, ça
oui.
Une partie de ma question a été répondue par les invités cela. Mais oui. Je voulais dire tout simplement à notre invité, si à moyen de lui qui parle généralement avec ses entreprises, mais s'il n'y a pas moyen de lever l'option directement de soutenir, n'est-ce pas, j'allais dire la République démocratique du Congo, au lieu d'entretenir, de soutenir toute la corruption que les dirigeants, que ceux qui sont censés engager l'État, essaient de les proposer. Parce que de toutes les façons, moi je crois, il y a toujours l'alternance, il y a les changements et tout, et moi je crois qu'il serait mieux pour avoir des signatures qui seraient dans l'intérêt général, qui défend bien sûr leurs intérêts, je sais que ce sont les affaires, mais qui défend à la fois aussi le Congo, puisque demain, d'autres peuvent arriver, ils vont bien continuer. En ce qui concerne les aspects sociaux, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais à Kafoufou, il y a eu des problèmes entre les sociétés minières avec les originaires. Est-ce que, de toutes les façons, ils ne sont pas en dehors de ce monde, ils voient en Nigeria, partout ailleurs, ils doivent avoir des aspects sociaux à impact visible. Il ne faut pas nous dire des histoires qu'on peut partager et tout, mais au moment où il y a encore des budgets de société, moi je crois que toutes les entreprises dans leur budget doivent prévoir vraiment l'aspect social à impact visible. De toute façon, celui qui est à Mwanda ou qui est à Soumbaye, ça je sais où, puisse voir des usines, les écoles, les hôpitaux et tout.
Mm-hmm.
Et non, nous dire que non, écoutez, on va faire ceci, cela, mais l'impact visible, nous voulons palper, voir.
Oui, merci Damas, pour vous, voulez qu'il y ait vraiment un impact visible, que les entreprises puissent mener des actions sociales visibles et rapides. Comme ça, ça permet aux populations d'être un peu, si on peut dire, confiantes et savoir être assurées qu'effectivement, ces entreprises qui s'implantent ne sont pas là seulement pour leur intérêt, mais aussi pour l'intérêt des populations. Monsieur Simon Toumawak, vous avez suivi nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Effectivement, concernant d'ailleurs le dernier intervenant de Kinshasa, moi je l'inviterai à faire, s'il a la possibilité de faire un tour au niveau du Katanga pour visiter les entreprises qui sont sur place, qui produisent, les entreprises qui, vous savez très bien que les sites minières sont souvent très éloignés des villes, et quand on est éloigné des villes, on est obligé d'avoir, de construire des écoles ou de la réhabilité, d'équiper les hôpitaux, parce que non seulement ça va servir à vos employés, mais aussi à la population. Et donc, il y a au niveau social, il y a des interventions des entreprises minières qui sont des interventions à impact visible, comme le souhaite.
Oui.
Et c'est que, avec M. Piana, j'aurais dit encore que les entreprises minières, je parle au niveau des entreprises minières membres de la FEC,
oui.
nous faisons partie de l'initiative de transparence, justement parce que nous croyons que en étant transparent, la population comprendra que peut-être que la faute qu'on nous lance en disant qu'il y a la confusion, que les entreprises minières fraudent, etc., ils verront par eux-mêmes que ces sociétés minières travaillent dans la transparence, ils déclarent ce qu'ils doivent payer et qu'ils payent effectivement ce qu'ils doivent payer. Maintenant, on doit faire la traçabilité des fonds qui rentrent dans les trésors publics si ça arrive vraiment dans le trésor et utilisé à ce qui doit être utilisé. Oui.
Monsieur Théodore Piana, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez conclure concernant ce sujet sur la fiscalité, mais aussi sur les contrats sociaux que doivent respecter les entreprises minières ou d'exploitation forestière?
Oui, disons que votre question a deux volets. Alors, au niveau de la fiscalité, il faut dire que j'étais en train ici d'énumérer les enjeux qui étaient relevés, qui sont relevés dans le rapport du Sénat et tout. Il n'y a pas que la responsabilité civile ici est partagée.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, du côté du gouvernement, il y a aussi à faire, il y a beaucoup à faire. Comment voulez-vous qu'il y ait des contradictions au niveau de statistiques qui sont données, que ce soit des montants qui sont payés, que ce soit des productions, vous trouvez que ce sont des écarts terribles. On peut comprendre encore qu'il y a des erreurs quand les écarts ne sont pas assez importants. Mm-hmm. Mais quand les écarts sont importants, donc ça dénonce certaines dysfonctionnements.
Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Pour conclure, en deux mots, il faut au niveau du gouvernement qu'on élabore un canevas de propositions de renforcement des synergies entre les administrations, les services, avec les régimes citoyens. Si les lois peuvent être bonnes et peuvent être bien élaborées. Mais au niveau de l'application, on doit voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour qu'il y ait cette coordination-là.
Oui. Merci beaucoup, Théodore Piana, pour toutes vos propositions et merci d'avoir participé à cette émission. Nous prenons un dernier auditeur destiné. Bonjour,
Destiné. Moi qui vous remercie, madame.
Oui, merci. Destiné, on vous écoute.
Bonjour,
en bref.
Oui, ce qu'il faut, c'est que j'épouse l'idée de mon prédécesseur. Il faut que l'on élabore un canevas, un réseau prioritaire de demandes pour pouvoir maintenant avoir des mesures qui vont permettre l'application.
Oui.
Et tout
ça, merci beaucoup, Destiné. Vous nous appelez de Kananga, au Kasaï occidental. Et pour conclure, nous avons notre invité, Simon Tumawaku. Vous êtes vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour conclure?
Merci, madame. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités. Et pour nos auditeurs, je veux dire que les entreprises minières, je ne peux parler que ceux qui sont membres de la CET, effectivement, et nous essaierons d'avoir le plus grand possible, sont disposés à aider à soutenir l'action du gouvernement en payant leurs impôts, en intervenant au niveau de la contribution sociale locale. Mais pour cela, nous avons besoin aussi du soutien du gouvernement pour un contrôle, un contrôle transparent, et que cela se fasse sans en éliminant le maximum de tracasseries. Si les entreprises se sentent en sécurité, qu'ils ont la sécurité juridique et judiciaire, je crois que cela va contribuer au développement du pays.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sylvain Tumawaku. Vous êtes vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des mines et président du conseil d'administration de Pamoto Copper Company, aussi ancien ministre des mines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons aussi merci à Henri, à Augustin, à James et à Jirès, qu'on n'a pas pu joindre parce que le temps est assez court. Nous remercions également Théodore Piana, qui est expert dans le secteur minier et ancien membre de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Nous parlerons assurance. La Sonos va lancer demain la campagne de recouvrement de l'assurance automobile. Les questions: que représentent pour vous les assurances? Selon vous, que faut-il faire pour que l'assurance soit accessible à tous? Réagissez dès à présent par Internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe Parole aux auditeurs, Pierre Lamégi, Titi Mpoutou, Mahondi Mkomia, sans oublier Sylvain Baoguéré pour la mise en onde.